Ciné Latino Toulouse 2024. Regard féminin. Ça y est, c'est mars, c'est Ciné Latino. Depuis toujours, découvrir la programmation du festival Ciné Latino nourrit chez moi des sentiments paradoxaux. L'excitation face à l'immensité du continent festivalier et la frustration, immédiatement, de savoir que je ne verrai pas tout, ni même tout ce que je voudrais voir. Alors depuis toujours, je me fixe une ligne qui m'aide à choisir. Les films à voir en famille, un pays sur lequel je veux approfondir mes connaissances, les films qui pourraient intéresser mes élèves, les pays rares les moins représentés, les films expérimentaux, les premiers films. Il y a tellement de fils à tirer. Dernièrement, ma priorité va vers les films réalisés par ou mettant en avant les communautés et les personnes afro-descendantes ou indigènes, les communautés et les personnes LGBTQIA+, les femmes. C'est ce dernier fil que je vous propose de commencer à dérouler dans cet épisode, consacré à quelques regards de femmes. Et comme le festival commence à peine, il s'agira de films programmés en reprise cette année et que j'ai eu la possibilité de voir lors des éditions précédentes. J'entends déjà les critiques s'élever. C'est quoi ça? Un boycott des hommes? Non, rien de cela. Je vous explique. D'abord, je pense qu'il faut encourager Ciné Latino. Depuis plusieurs années, je compte les réalisateurs et les réalisatrices en compétition. C'est pas mal. C'est presque à l'équilibre. Encore un effort. Cette année, le seuil est presque atteint. Compétition long métrage de fiction, 5 réalisatrices pour 12 sélectionnées. Compétition long métrage documentaire, 3 réalisatrices pour 7 sélectionnées. Compétition court métrage de fiction, 7 réalisatrices pour 12 sélectionnées. Parce qu'on sera nombreuses et nombreux à aller voir les films de réalisatrices, l'année prochaine, la règle arithmétique sera peut-être nombre de réalisatrices égale nombre de sélectionnées divisé par 2, et non nombre de réalisatrices égale nombre de sélectionnées divisé par 2 moins 1. Donc, soutenons les films de réalisatrices. Mais la vraie raison de ce choix, de donner la priorité à des films de réalisatrices, est personnelle. Elle s'inscrit dans ma quête du regard féminin. Depuis que j'ai entendu parler du male gaze, c'est une recherche personnelle que je mène. Petit rappel, selon Wikipédia, le regard masculin, appelé également vision masculine ou male gaze, est un concept postulant que la culture visuelle dominante, photos, cinéma, publicité, jeux vidéo, bande dessinée, etc., impose une perspective d'homme cisgenre hétérosexuel. Ce concept est considéré comme le signe d'un pouvoir asymétrique. Il a été proposé par la réalisatrice et critique de cinéma Laura Mulvey dans un article publié en 1975. Ces textes ont été partiellement traduits en France en 1993, puis en 2018. 1975, 1993, 2018. Va savoir pourquoi le cinéma français oppose à cette théorie jugée moralisatrice l'autonomie de l'art. Le regard masculin au cinéma comprend le regard du réalisateur, le regard des personnages masculins et le regard du spectateur sur le corps féminin, mais aussi sur le monde. Et les images cinématographiques contribuent à véhiculer les violences exercées sur les femmes par le patriarcat et le capitalisme. Quand j'ai pris connaissance de ce concept, c'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Ainsi donc, à travers les représentations culturelles que j'aimais tant et qui avaient été massivement produites par des hommes cisgenres hétérosexuels, j'avais développé un regard sur les femmes, sur moi-même, sur le monde, induit par ce regard masculin, qui ne m'appartenait pas, mais s'était imposé à moi comme l'unique représentation des femmes et du monde. J'ai eu l'impression de vivre avec un cerveau colonisé. C'est à ce moment-là qu'a commencé ma quête, qui se poursuit encore. En quoi consiste le regard féminin ? Quelle représentation féminine réveille en moi une vibration autre que celle du regard masculin dominant ? Où se loge la culture des femmes ? J'ai besoin de nourrir cette recherche de productions artistiques réalisées par des femmes. Combler un vide, un manque. Au cinéma, devant un film de réalisatrice, je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi, ce qui me fait vibrer profondément, différemment, dans mon corps. J'essaie d'aborder les films de ce point de vue de spectatrice-là. C'est une méthode intime, empirique, personnelle. Elle produit des surprises. Il y a des films de réalisatrices qui vibrent en moi comme cette production masculine dominante dans laquelle j'ai baigné jusque-là. Et il y a des films de réalisateurs qui m'ont atteinte au plus profond de ma chair de cette manière singulière que je qualifierais de féminine. Une de mes expériences les plus fortes fut d'ailleurs à Ciné Latino, avec le film « La vie invisible d'Aurélis Gussemann » de Karim Aynouz. Un film qui a parlé directement et presque exclusivement à mon corps de femme, et non à ma tête, au point que j'ai manqué de m'évanouir à deux reprises. Voici 5 films programmés en reprise dans cette 36e édition de Ciné Latino, films de réalisatrice, et voici comment, selon mes critères très personnels, très empiriques, très intimes, ils contribuent à nourrir un regard féminin sur le monde. Ce regard féminin est d'abord pour moi dans une forme de cinéma des temps morts, par opposition au scénario bien huilé, au suspense, au récit épique, héroïque, qui s'adresse plutôt à mon mental, il y a ce cinéma peu spectaculaire, où le fil narratif est volontiers abandonné au profit de moments dénués d'action, de ratage, d'interstices, de contemplation. Le rythme semble comme plus naturel, vivant, laissant place au doute, et le temps aux spectateurices de se connecter autrement que par l'intellect à ce qui se passe à l'écran, faisant de l'expérience cinématographique une quasi-expérience de vie. Ainsi, dans Chili 1976, film chilien de Manuela Martelli.
A continuation, se dirige al país Su Excelencia el Presidente de la República, General Augusto Pinochet Ugarte.
Pendant la dictature de Pinochet, le film montre l'engagement progressif, presque fortuit, d'une femme bourgeoise, sollicitée par un curé pour soigner un blessé en secret qui se révèle être un opposant politique à la dictature. On la suit dans ses activités quotidiennes, repeindre sa maison de campagne, nourrir ses enfants, accueillir les amis de son mari. On vit à ses côtés les ambiguïtés d'une époque angoissante, soulignée par la musique originale de Maria Portugal, époque où se côtoient à la même table les chantres de la dictature, et celles qui osent, peut-être, s'engager en secret. Dans ce film, le patriarcat, comme le diable, se glisse dans les détails d'un quotidien ordinaire, intime. Ce film m'a rappelé l'histoire officielle de Luis Puente, où l'intime avait aussi sa place. Mais dans Chili 1976, toute forme de violence est hors champ, suggérée par des images ambiguës et d'autant plus anxiogènes. La trajectoire de la protagoniste est moins spectaculaire, moins radicale, émaillée d'ambiguïté et de sincérité désarmée. Un autre aspect de ce regard féminin serait pour moi l'accent mis sur les relations, avec beaucoup de subtilité, une mise à nu de l'intériorité des personnages, une exploration des non-dits et de la communication non-verbale. C'est vrai dans Chili 1976, dans la relation entre la protagoniste et l'homme blessé qu'elle soigne, mais aussi avec la servante du curé, ou les enfants, dans une période où parler était prendre le risque de se dévoiler ou dénoncer. Cette observation des relations entre les personnages est également au cœur du film Totem, de Lila Aviles. Un film intimiste qui nous plonge dans une maison de famille, où l'on se prépare à célébrer ce qui sera sûrement le dernier anniversaire de Tonatiu, car il est malade et condamné. Il est le père d'une fillette de 7 ans, qui est au centre du film, mais aussi un mari, un frère, un fils, un ami. Les relations familiales, la tendresse, la perte que l'on pressent sont explorées au cœur même de gestes quotidiens. Préparation d'un gâteau, ménage, toilette. Chaque personnage apportant sa couleur dans un nuancier de sentiments.
Con arete o sin arete?
Con arete.
Non, 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 non. Como te enseñé, papi. Abanico. Abanico.
Ya se lo estás haciendo tú, deja que haga lo él.
Bernardo, tú también, ándale.
Por eso se vuelven manchas.
Perdón, no tengo la respuesta.
Cette dimension existe aussi dans Levante, film brésilien de Lila Alla, qui met en contact le monde du sport et la communauté LGBT par l'histoire d'une équipe de volley inclusive. On accède à la manière dont les personnages s'observent pour se comprendre et manifester leur solidarité par des actes simples, comme les amis de la protagoniste ou son père.
Eu não quero ter. Só preciso saber como.
Joga a porra do seu futuro no lixo!
Tava tentando fazer aborto clandestino numa clínica.
Dans ce film, Levante se joue aussi une troisième dimension de ce qui, selon moi, pourrait contribuer à un regard féminin au cinéma. La mise à l'épreuve du corps des femmes ou des minorités. Mise en scène à travers le sport, mais aussi par la question de la libre disposition de son corps dans un pays, le Brésil, où l'avortement est interdit et les communautés LGBTQIA+, criminalisées, notamment sous l'influence de l'Église évangélique. Noche de Fuego, film du Salvador de Tatiana Hueso, est traversé également par la question du corps des femmes comme territoire de violence. Sur fond de narcotrafic, il raconte la vie d'un village où les mères cachent leurs filles en les déguisant en garçons pour leur éviter d'être enlevées. Les filles grandissent dans cette violence de devoir se cacher en tant que femmes, de se vivre comme proie potentielle, de jouer leur vie dans le dévoilement de qui elles sont. Mais dans Noche de Fuego, comme dans Totem, les enfants ou adolescentes protagonistes, certes montrés dans une forme de vulnérabilité, apparaissent également avec toute la force de leur créativité, dans la construction de leur capacité à s'inscrire dans leur propre vie. Dans ces deux films, cette créativité se traduit notamment par une sensualité dans la relation au monde, à la nature, aux objets, une forme de relation poétique, presque magique au monde. C'est aussi un point qui relève selon moi d'un regard féminin, la non-victimisation des enfants, adolescentes, et plus largement des personnes en situation de dominer, et leur représentation comme des sujets libres, se frayant un chemin parfois dans la radicalité, comme dans Levante. Dans Mis Hermanos, film chilien de Claudia Huayquimilla, la réalisatrice nous conduit dans une prison pour mineurs au Chili.
La gente cuando mira para acá ve muro, reja. Yo veo cabros que viven juntos.
Comme dans son premier film, Mala Junta, la réalisatrice excelle dans ses portraits d'adolescents et d'adolescentes que la société rejette et qui se dressent pour leur liberté. Je vous recommande fortement ces films, sur lesquels vous jetterez peut-être, à ma manière, un regard féminin de spectatrice en quête d'un autre imaginaire. Dans cet épisode, on a parlé de Chili 1976 de Manuela Martelli, on a parlé de Levante de Lila Hala, Mis Hermanos de Claudia Huayquimilla, Noche de Fuego de Tatiana Hueso, Totem de Lila Aviles. On a écouté les musiques du trailer du festival Ciné Latino 36e rencontre de Toulouse, composé par Ivo Martin, et Mon Amour de Eli Pineda, qui sera en concert dans le cadre de Ciné Latino dans la cour de la Cinémathèque le 18 mars à 18h30. C'était Ciné Latino 2024, un épisode de Flore, regard féminin, pour Les Petits Papiers, sur Canal Sud 92.2 ou canalsud.net.